Ce matin, j'ai le désir de vous parler du psaume 130. Ce psaume du pèlerinage, chanté par les enfants d'Israël pendant des centaines d'années, en allant prier dans le temple de Jérusalem. C'était beau. Je ne sais pas si vous priez dans la voiture quand vous venez, cherchant une place, courageusement, parce que tout ça, c'est des petits efforts qui comptent dans la main de Dieu, dans les balances de Dieu. Les balances de Dieu sont très sensibles et ne pèsent pas nos grands esbroufs, elles pèsent les petites choses, très sensibles. Tout ce que nous faisons dans le secret, tout ce que nous disons, tout ça, c'est dans la balance. Et ce n'est pas perdu. Rien de ce que nous disons ou faisons, en bien ou en mal, ne sera perdu. Nous rendrons compte de toute parole vaine et le Seigneur nous récompensera pour tout ce que nous avons fait de bien étant dans notre corps, fragile et mortel. Mais je reviens au psaume 130. On ne sait pas qui, c'est souvent David, mais là je ne peux pas le dire. C'était les enfants d'Israël. C'est Israël, c'est une inspiration du Saint-Esprit. Psaume 130, cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. En français courant, la délivrance nous est donnée en abondance par le Seigneur. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Les enfants d'Israël vont dans le merveilleux temple de Jérusalem, une des merveilles du monde, avec ses marbres, ses bois, ses ors, ces milliers, ces dizaines de milliers de choristes. Mais on peut aller dans ce magnifique temple de Jérusalem et être au fond, tombé, tout au fond du gouffre. Et le psaume, là, il nous dit une vérité. La beauté d'un lieu, la beauté des champs, l'ambiance, comme on dit, ce que j'aime pas. Ça ne dit pas que nous sommes en communion parfaite avec Dieu. Le psaume nous dit, je suis dans l'abîme, je suis tout en bas. Il y a peut-être parmi nous ce matin un frère, une sœur qui est dans l'abîme. Pouf, tombé, tout au fond, comme Jonas qui a crié dans l'abîme tout au fond de la mer pendant 3 jours. Et on se sent comme perdu, on ne retrouve plus la joie du début, la fraîcheur de la prière, la vérité, la sincérité de la communion fraternelle, l'impression qu'on est fuyant, fuyard. L'abîme, c'est notre vie avec ses bas, notre vie mortelle, fragile. On se retrouve tout à coup, tout au fond, et on ne peut pas remonter tout seul. On ne peut pas faire remonter le Titanic. Et nous-mêmes, on ne peut pas remonter tout seul. On n'a même plus les mots pour prier. On n'a plus rien. On ne sait même plus prier. On est là, on pense, mais on ne prie plus. Penser, ce n'est pas prier. Je pense à Dieu, mais pries-tu Dieu ? Et le psaume 130 nous donne des mots pour prier. Et Dieu ouvre ses oreilles à ces mots. Dieu ouvre son cœur. Quand tout va mal et qu'on est dans l'épreuve, la souffrance tout au fond du gouffre, le fait simplement de prier, de crier, c'est le début d'une remontée. C'est le début d'un dégagement. C'est déjà le Christ qui nous attire. Comme le soleil attire les larves de libellules dans la boue au printemps. Et les larves remontent, attirées par la chaleur du soleil. Ce psaume, ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri de confiance. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Ça veut dire, je sais que tu m'entends. Ça veut dire, je sais que tu es là avec moi dans l'abîme. Tu es là avec moi dans ma souffrance, avec moi dans ma solitude, dans mon chagrin. Tu es là. C'est un cri de confiance, c'est une confession de foi. Au fond de mes ennuis. Je crois que ce matin, il y a un frère qui a besoin d'entendre ça, il y a une sœur qui a besoin de l'entendre. Du fond de mes ennuis, je t'adresse ma prière, que tes oreilles soient attentives. Et quand on prie, on se prépare déjà à recevoir. Chaque fois que vous priez, vous vous préparez à une visite de Jésus, une visitation de Jésus. Peut-être qu'on est dans la fosse par notre faute. On a été violent, on n'a pas observé les commandements du Seigneur. On est allé dans des sentiers qui ne sont pas pour nous. Peut-être que c'est notre faute. Peut-être aussi que ce sont les événements. Dans tous les cas, quand on est tout au fond, on a un sentiment d'échec, un sentiment de dégoût. Tristesse, comme l'apôtre Pierre qui pleurait après avoir renié Jésus et juré devant Dieu qu'il n'a jamais connu Jésus. Vous comprenez les larmes, les flots de larmes. Il est dans l'abîme. Celui qui prie ainsi, il croit que Dieu est présent dans la profondeur. Pas une situation ne nous ferme à l'approche de Dieu. On peut toujours prier. Mais peut-être qu'autour de nous, il faut qu'il y ait des frères et des sœurs qui peut-être entendent aussi le cri. Quand on crie, quand on prie à Dieu, il ne faut pas être exubérant. Il ne faut pas, comme les hypocrites, disait Jésus, qui aiment prier au coin des rues et qui se montrent. Il ne faut pas être hypocrite. La prière, c'est quand même une dimension, pas individuelle, personnelle avec Dieu. Mais est-ce que les frères et sœurs, autour de ces frères qui sont tombés dans l'abîme, est-ce qu'ils ont vu la souffrance ? Ou est-ce qu'ils se disent, c'est pas mon problème, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'ils ont entendu la détresse? Est-ce qu'ils ressentent la détresse? Que Dieu nous délivre de l'égoïsme. Que Dieu nous délivre du sentiment que ce qui compte, c'est notre petite famille, notre petite personne, notre petite communauté, on ne s'occupe pas des autres, chacun pour soi, que Dieu nous délivre. Là, il y a un homme au fond du gouffre, et qui appelle le Seigneur. Je dois entendre aussi, peut-être, sa détresse à travers ce que je vois sur lui. Quelques centimètres entre Jésus et le brigand sur la croix. Quelques centimètres. Autour de la croix, des centaines de personnes. Seul Jésus a entendu la prière de cet homme. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus n'a pas dit oui. Il faut que nos paroles soient rassurantes. Il faut qu'on ait des belles paroles, nous qui aimons la parole de Dieu. Jésus lui a dit une promesse, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là j'ai un plan de prédication que j'ai déjà donné à l'église de Rennes. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aucune de nos souffrances est sans réponse de Dieu et sans secours. Aucune de nos prières est sans réponse. Dieu est dans l'abîme avec nous. J'aime bien cette parole, que tes oreilles soient attentives. Ça paraît familier. Seigneur, bouge pas tes oreilles. Débouche tes oreilles, Seigneur. Écoute-moi. Il y a une parole qui est comme familière. Mais je reviens au psaume. Dieu attend que vous l'appeliez. Je ne sais pas si vous mettez dans votre prière simplement votre café au lait et votre chocolat, mais je pense qu'il faut dire dans nos prières, merci pour le café au lait et bénis nos enfants et touche ma femme qui est malade, que j'ai blessée peut-être, que j'ai un peu abandonnée. Seigneur, je ne veux pas être hypocrite. Seigneur, bénis-la. Je crois que Dieu attend nos prières pour répondre. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur éternel, qui pourraient subsister. Je crois que cet homme-là, il est au fond du gouffre parce que il a commis une faute. Et sans le pardon de Dieu, il n'y aurait plus d'homme sur terre pour dire « Père, pardonne-moi mes offenses ». S'il n'y avait pas le pardon de Dieu, il n'y aurait plus d'enfant pour dire « Père, pardonne-moi ». Et s'il n'y a plus d'enfant pour dire « Père, pardonne-moi », il n'y a plus de père. S'il n'y a plus d'enfant, il n'y a pas de père. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de père. Sans le pardon, il n'y aurait pas d'humanité, il n'y aurait pas l'Église. Sans le pardon, Dieu serait tout seul et nous ne serions pas là. La vie est suspendue au pardon de Dieu. Nous tenons debout grâce à une bonté infinie. Souvenez-vous de ça. Ne vous habituez jamais aux mensonges, au vol, aux impuretés, à l'égoïsme, à la rapine, à l'avarice qui est une idole condamnée par Dieu. Ne vous habituez pas à ça. Pardon, Seigneur. Celui qui s'appuie sur le Seigneur du pardon, celui-là, il peut être sans inquiétude. Dieu n'est pas loin de lui. Sans le pardon, Abraham n'aurait pas pu tenir. Lui qui a couché avec sa servante. Sans le pardon, Moïse qui a tué un homme n'aurait pas pu résister à l'examen de sa faute. Sans le pardon, Pierre n'aurait jamais connu la mission qu'il a connue. Souvent, on est très léger, on est des hommes, des femmes légers. Tourne les pages, allez, merci, pardon Seigneur. le Seigneur nous a appris ce qu'est le pardon. Ça coûte cher, le pardon. Tout coûte sur la terre. L'Église a coûté beaucoup. Ma vie a coûté, votre vie a coûté beaucoup. Tout coûte sur la terre. Et le pardon, ça a un prix. La mort, la souffrance de Jésus. Et le psaume dit, le pardon se trouve auprès de toi. J'aime bien cette parole. Parce que le pardon, ce n'est pas une loi mécanique. Ce n'est pas un rite. Tu es baptisé, tu es pardonné. Tu pries un petit peu, tu es pardonné. Non. C'est auprès de toi que se trouve le pardon. Ça veut dire que le pardon, nous le trouvons quand nous sommes à côté de Dieu, dans la rencontre avec Dieu. Sinon, c'est léger, c'est charnel, c'est pas chrétien, c'est pas humain, c'est rien. Oh, pardon, excuse-moi. Souvent dans la rue, maintenant, les gens disent plus « excusez-moi », ils ne disent plus ça, c'est déjà très riche. C'est le luxe, « excusez-moi ». On m'a bousculé beaucoup de fois dans la rue, jamais en me regardant, jamais, non, jamais en s'excusant. Mais le pardon, ce n'est pas seulement dire « excuse-moi, je te prie ». Le pardon, c'est rencontrer Dieu auprès de toi. C'est remettre à Dieu notre souffrance. On revient à la souffrance, dans l'abîme. C'est remettre à Dieu notre faute, nos chagrins. Et Dieu s'en charge, parce qu'on a confiance en lui. C'est auprès de toi, quand je suis près de toi, c'est là que tu prends ta brebis et que tu la soignes, que tu la répares. Mais il faut être auprès de toi. Bien sûr, je comprends quand vous me dites « priez pour moi », mais vous, vous faites n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Si vous me demandez « priez pour moi », je ne peux pas vous dire « restez dans vos adultères, dans votre boue », ce n'est pas possible. Il faut aller près du Seigneur, tout près de lui. Et là, je peux prier pour vous, et là, quand deux ou trois s'accordent, quand ils sont sur la même longueur d'onde, le Seigneur nous entend. Amen. Il ne faut pas seulement croire que Dieu pardonne. Il faut lui demander le pardon. Je crois que mon boulanger fait du bon pain. Je peux vous l'assurer. Mais il faut que je lui demande du pain. Sinon, je vais mourir de faim. Il faut demander le pardon. Allons auprès de Dieu. Le chemin, c'est Jésus. C'est l'Évangile. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Les gens n'aiment pas toujours. Il y a des chrétiens parmi nous qui m'ont dit « Ah, j'aime pas quand vous parlez de la crainte parce que je ne veux pas craindre Dieu. » Vous craignez une souris qui traverse votre salle à manger et vous ne voulez pas craindre Dieu. Craindre, ça ne veut pas dire avoir peur d'un tyran. Crainte, ça veut dire être étonné, émerveillé, sonné. Si je voyais le soleil de près ou les astres, etc., je serais, j'aurais peur, dans le sens que ça nous paraît effrayant à nous, pauvres humains, limités, fragiles. Donc nous ne devons pas croire que le péché n'est pas sans conséquences graves. Quand on trouve le pardon, on apprend à découvrir un Dieu extraordinaire et on le respecte et on l'aime et on ne veut pas recommencer. Et on a la crainte, pas de Dieu seulement, mais du péché. Enfin, je termine en vous disant ce texte encore. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme espère. Espérer, c'est attendre. Le mot espérer veut dire attendre. Vous savez que nous avons été convertis pour attendre. On est fait pour attendre. On est des êtres de l'attente. Et quand on est tout au fond du gouffre, dans une dépression, dans une solitude, rien ne va, tout se casse, on n'a personne qui nous aide, on est comme abandonné, on a fait des fautes, c'est vrai aussi. Et quand on est tout au fond, on pourrait ne plus rien attendre. On pourrait se replier. On pourrait douter des autres, douter de Dieu et se fermer à Dieu. Ne plus rien attendre. Vous savez, la mentalité du monde d'aujourd'hui, où on a tout d'un clic, clic, et quand ça demande 2 secondes, ah, qu'est-ce qu'il fait, ça ne marche pas. La mentalité du monde d'aujourd'hui est déplorable, dans ce qu'elle a de mauvais, évidemment. Et elle diminue en nous notre capacité d'attendre. Attendre, c'est un combat qui se fait dans la durée. Dans les temps difficiles, il faut durer. Dans les urgences, il faut se cramponner. Mais on a la certitude qu'on n'attend pas personne. On attend le Seigneur. Jonas a attendu 3 jours. C'était long, hein? Quand on est dans son fauteuil, ce n'est pas très long, mais quand on est dans le ventre d'un poisson, c'est long. Lazare a attendu 4 jours. Ceux qui sont décédés aujourd'hui attendent encore. Ils attendent encore la manifestation de la gloire de Jésus-Christ où ils seront ressuscités. Ils attendent encore. Nos souffrances nous placent dans une attitude d'attente. Nos péchés nous mettent dans une attitude d'attente. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on attend. La foi, c'est dire, j'ai l'assurance, j'attends. J'attends tes promesses. Je connais ta promesse, je l'ai entendue, je la connais par cœur, je l'ai lue. Mais maintenant, j'attends qu'elle s'accomplisse. Il y a parfois des chrétiens qui n'attendent rien. C'est terrible. Ils ont leur portable pendant le culte même, ou alors ils pensent déjà ce qu'ils vont faire demain ou mercredi matin, et ils n'attendent rien, alors que Dieu est là avec des trésors formidables, des ressources de bonheur, de joie, de pardon, de paix, et ils n'attendent rien de Dieu. Regardez le psaume. Je compte sur le Seigneur, plus que les veilleurs ne comptent sur le matin. On répète les mots. On reste cramponné aux paroles de Dieu. Vous savez, j'ai aussi des jours difficiles, on en a tous. Mais dans les difficultés le soir, j'aime bien lire un texte, parfois 20 fois, tellement je le savoure, je le laisse pénétrer en moi. J'attends que ce texte s'accomplisse en moi. Il y a une parole ici qui est belle, c'est la comparaison avec le veilleur. J'ai monté la garde au service militaire une fois, pas beaucoup. Mais quand même, c'était déjà un exploit, rester toute la nuit debout pour attendre rien du tout. Évidemment, ce n'était pas la guerre. Et le veilleur attend le jour. Il sait que ça va venir. Mais toute la nuit, il est là, c'est une épreuve. Il faut qu'il supporte le froid, l'immobilité. Il faut qu'il supporte la solitude, des dangers la nuit. Il y a toujours un danger la nuit. Mais il sait, le garde, le veilleur, il sait que le matin va se lever, le soleil va se lever. Le Seigneur dit, les enfants de Dieu comptent sur le Christ, sur Dieu, plus que sur le soleil. Parce que je ne sais pas si demain matin, le soleil va se lever. Avez-vous la certitude? Qui a la certitude? Il y a une éclipse ce soir, ça tombe bien. Il y a une éclipse de lune ce soir, cette nuit. Alors demain matin, je ne sais pas si le soleil va se lever. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur fera grâce à ma vie et à votre vie. Si nous allons vers lui, chercher du secours et le pardon. Amen. Frères et sœurs, je pense qu'il nous faut réveiller notre conscience. À la fin du psaume, il y a cette parole magnifique, « La rédemption est auprès de lui en abondance. » C'est-à-dire, la rédemption, c'est la délivrance de nos souffrances, de nos chagrins, de nos solitudes. On s'enferme et on dépérit, on devient des squelettes, tellement on se prive du rayon de soleil de Dieu. On est fait pour Dieu, Dieu existe pour nous, il est pour nous, il ne fait que de penser à nous. Son métier, nous, les humains, et nous on est là et on tout triture nos portables et on n'écoute plus la voix de Dieu. Frères et sœurs, la délivrance est auprès de lui en abondance. Le psaume ne savait pas que Dieu allait nous donner un rédempteur, Jésus, qui nous donnerait tout en abondance. Mais il est venu, il est là, au milieu de nous, à côté de vous, devant vous. Il vous tend les mains. De quoi as-tu peur? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi quel chagrin remplit ton cœur? Pourquoi as-tu fait cela? Que veux-tu que je te fasse? Il est là, il nous appelle, il nous prend. Enfin, je vais terminer en revenant au début du psaume. Du fond de l'abîme. Des versions disent des profondeurs. J'aime bien aussi le mot profondeur. Et ce mot profondeur, de ma profondeur, du fond de la profondeur, ça parle de ma vie intérieure. Personnel, de mon cœur, de ma chambre secrète. Et je crois vraiment qu'il faut entrer dans les profondeurs de sa vie pour aller vers Dieu. Il ne faut pas rester en surface. Amen, alléluia. Il faut aller dans les profondeurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut aller dans la profondeur, il faut aller dans les racines. Il faut aller là où Dieu visite, où Dieu marche, où Dieu envoie sa bénédiction. Quand on passe à côté de la mort, quand Dieu nous épargne un accident et la mort, tout à coup on découvre la profondeur. On découvre que la vie, elle est précieuse, on y réfléchit. Ça, la profondeur. On y pense, on pense qu'il faut chercher la vérité pour sa vie. Il faut donner du sens à sa vie. Il ne faut pas vivre pour manger, boire et jouer. On donne du sens, une direction, un chemin, une vie à sa vie. Que Dieu nous bénisse. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Prête ton oreille. Soit que tes oreilles soient attentives à mes cris. Seigneur, tu m'entends. Si tu gardais le souvenir des iniquités qui pourraient subsister, Seigneur, aie pitié de moi, relève-moi. Que Dieu vous bénisse. Vous relirez le psaume cette semaine. On va prier ensemble. Ce psaume nous encourage, Seigneur. Ce psaume, c'est un chemin qui va vers toi. Nous allons vers le Seigneur dans sa maison, dans sa demeure, dans son église. Donne-nous des oreilles et un cœur sensible pour écouter ceux qui sont dans l'abîme. Nous ne voulons pas, nous ne pourrons pas être heureux si nous ne pensons qu'à nous. Si nous ne donnons jamais à cette Église qui a coûté ton corps, ton sang, ton éternité, nous ne pourrons jamais vivre vraiment bien sans toi. Exauce notre prière ce matin et remonte-nous des profondeurs. Fais-nous monter dans ta lumière et que notre cœur vive. Amen.